Cette émission vous est présentée par
Decathlon.
Top 10 all time.
C'est lundi.
Oui, monsieur. Boom.
Meilleur jour de la semaine.
Yes, sir.
Ça démarre en fanfare, comme d'hab, avec un petit top 10 des familles. Boum.
Prends la vache.
Bon. Bon. Bon petit sujet, j'aime bien.
Top 10 all time des plus grands what if. Je sens que ça va partir dans tous les sens. On s'installe. En espérant que vous allez bien, on s'est fait de fin d'année. Mettez-vous au chaud et régalez-vous. On va parler de bouffe, on va parler des 4, on va parler des plus grandes questions et les... Quoi si what if de l'histoire de la NBA. Un lundi sur deux, on est all-time. Un lundi sur deux, on est actuel. Donc, relation inter-exter. Si vous voulez nous chercher sur les joueurs de moins de 25 ans, est-ce que le manque de respect envers Chet Holmgren est toujours aussi puissant? À en croire les commentaires, oui.
What if? C'est un what if.
C'est un what if. Peut-être qu'un jour, Chet Holmgren
what
sera dans
les what if. Chet Holmgren était franchise player.
Bah, il fera pas partie des 10, celui-là, je te le dis.
Bah, non.
Ah bah. Ça va être compliqué. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a très hâte de faire ce top 10 avec vous. N'hésitez pas, comme d'hab, à balancer vos suggestions de sujets parce que, on a nos yeux partout et on va dans les commentaires et on regarde justement quand la commu propose un beau sujet. On en a listé plein. On va débarquer après en 2026. Il y aura d'autres sujets du lundi à vivre ensemble.
Ouais.
Ça va être bonheur.
Ouais.
Et donc, on va tout de suite parler de ce sujet avant de parler de bouffe et de D4 parce que on a fait sur cette chaîne une série des plus grands what ifs.
Oui,
avec les enquêtes. Boîte mystère.
On avait appelé ça les enquêtes
les
de trash talk.
Les enquêtes de trash talk. C'est
tout
vrai, ça. Ça date de avant le Covid, cette affaire.
Ah ouais. Moi, je préparais des textes longs comme ça, avec des feuilles, des recherches dans tous les sens et tout.
La boîte à... Le jingle
était
complètement fou.
Il y avait de la prod.
Bon, arrête. À l'époque, tu sais. Mec vient de sortir une télé avec Alex. À l'époque, il y avait de la prod. Ok, les MVP. Non, mais c'est vrai, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à foncer. Avec Alex et Léonce, on a déjà fait des enquêtes, trash talk. Mais là, on s'est dit, attends, mais on les a pas classées quand même.
Non, mais j'en reprends quelques-unes, moi, qu'on avait faites, qui rentrent dans mes 10. Il y en a quelques-unes, pas toutes. Il y en a d'autres, j'ai une petite sélection, tout en finesse.
C'est ça. Alors, certains ont vu sur le visuel la tête de LeBron au New York Knicks. On va faire très simple. On ne parle pas de fantasy ici en se disant, ouais, des trucs qui n'ont jamais existé. On parle de choses qui ont vraiment eu lieu, mais il s'est passé un événement qui fait qu'ensuite on s'est dit « Ah mais si il n'y avait pas eu ça ou ça, peut-être qu'on aurait pu vivre telle chose. »
Mais sur des blessures qui tombent au mauvais moment, on est sur des « Et si telle équipe n'avait pas fait l'impasse sur tel joueur à la draft ?»
Oula.
Ah bah oui, moi j'en ai quelques-uns des motifs comme ça.
Oula.
On a aussi des décisions de joueurs, on a des faits de jeu.
Ouais.
On a du fait de jeu, hein.
Le shoot, il est loupé ou le pied, il est sur la ligne?
Ouais. Et l'arbitre, il était...
il était corrompu ou pas?
Ouais. Dis donc. Voilà.
Bien sûr.
Donc, il y a pas mal de choses comme ça.
Ce sont les plus grandes questions qu'on se pose dans l'histoire de la NBA. Et si, patati, patata.
Voilà.
Il y en a plein.
Donc, des blessures, des histoires de draft, des histoires éventuellement d'effets de jeu, d'arbitrage, de choses comme ça. De shoot qui rentrent ou qui rentrent pas. Mais... dans des cas très spécifiques, il ne s'agit pas quand même de dire « Et si Jordan, il n'avait pas mis son The Shot et tout ?» Non.
Non.
Il l'a mis, c'était une ficelle.
Voilà, on va pas commencer à tout refaire.
On peut.
Si vous voulez, mais ça ne sera pas dans nos 10.
Non.
Prenez un exemple concret, je vous donne un, je pense qu'il ne sera pas dans les 10 de Alex, je vais me permettre. Il y a eu une draft récemment où nos amis les Celtics, au buzzer, ont décidé de l'échanger leur pick avec les Sixers. Bravo les Sixers, vous avez pris Markel Fultz. Nous, on va prendre Jason Tatum.
Non, ça rentre pas, ça.
Ça rentre pas, mais c'est un exemple de what if.
Ouais, c'est un bon
ça
exemple.
Ça s'est passé vraiment.
What if les Sixers se font pas fumer par Danny Ainge?
What
c'est
if...
Danny Ainge, hein.
Bien sûr. What if les Sixers doivent faire avec Jason Tatum et Joel Embiid pendant que Boston essaie de construire autour de Jalen Brown et Markel Fultz?
What if le process, en gros?
What if le process, absolument. Plein de questions comme ça à se poser, donc vous pouvez tout retrouver à la fois dans les enquêtes à choc, vous pouvez aussi... vous apportez vos propres petits what if parce que, spoiler, on aurait pu faire un top 50. Hein.
Ah ouais, il y en a énormément.
T'en as genre 10 par franchise.
Et donc à chaque fois, ça commence par une question. Et si nanana.
Exactement. Sur la tablette.
Voilà.
Putain, ça va prendre du temps à écrire.
Ah oui, c'est
et
ça.
Si, patati,
non,
patati,
moi je vais mettre les grandes lignes.
Oui. Mais on la prononcera.
Oui, bien sûr.
Allez, avant de donner les tablettes et de démarrer évidemment cette émission, on vous rappelle que tous les lundis. Ils sont avec nous, Clockwork, et ça c'est pas un what if. Nos poteaux de Décathlon qui sont avec nous, vous pouvez retrouver dans le premier commentaire de cette vidéo évidemment la paire d'Alexandre Sarr, Canaveral, Mais pas que.
Pas que, il y a aussi une belle sélection de paniers de basket.
Et justement, je vais montrer ça à Léon. Ouais. Je t'en prie, Alex, en effet.
Ça, c'est cool. Il y a du panier de basket à prix assez élevé. Vraiment, si vous avez envie d'avoir de l'équipement quasi pro dans votre jardin, il y a je me rappelle plus, c'est le B900. Non.
B900.
Ouais, c'est ça. Qui a vraiment un panier qui se déplie. Nous, on l'a testé avec Bastien. On peut vraiment le déplier tout seul et le ranger tout seul.
Ramenez-le chez Tati, c'est bon.
Franchement, le confort de la planche est pas loin d'un vrai panier. C'est assez cool. Et à côté de ça, t'as des paniers beaucoup moins chers. Il y a même des paniers qui vont pour des chambres d'enfants ou des petits, vraiment des paniers pour petits, oui, et tout. Donc, il y a toute une gamme de prix. Donc, j'aime bien. C'est assez cool.
Vous pouvez notamment recréer des what-ifs avec ces paniers.
Oui, si
vous
voulez, par exemple, complètement.
Mettez un pied sur la ligne.
Faites un shoot qui rebondit plein de fois sur l'arceau comme ça. Est-ce qu'il tombe dedans ou pas? Est-ce que ça change des choses s'il ne tombe pas dedans?
Ah, la ref. On peut se poser la question. Avant de démarrer le top 10, on va devoir parler bouffe. Vous le savez, le lundi, c'est le midi. Et le midi, on se pose la question tout le temps, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on mange? Alex, qu'est-ce qu'on mange ce lundi?
Bœuf-carotte. Bœuf-carotte qui a bien mijoté à la cocotte.
Très bien.
Qui mijote, genre, tu sais, un peu toute la matinée, longtemps. Puis tu le laisses un peu et tout.
La commu hollandaise est venue te chercher par la pole du callback. Hein. Je sais pas si t'as vu avec tes histoires de fromage.
Lol. Bah, franchement.
Ça t'a empêché de dormir. Hein.
Je m'en bats les reins, total. Je suis hyper sain. Genre, ils sont venus chercher, j'ai même pas vu.
Oh non, j'ai mal dormi. Ça,
les dames, c'est hyper bon. arrêtez. Là. Non.
Ouais, what if là, on avait des bons
fromages. Déjà, on vous prête nos couleurs de drapeau, déjà.
Déjà.
On va pas vous prêter les trucs de fromage, ça va bien.
C'est ça.
Non, faut rester calme.
What if là, on avait de la nourriture de qualité. Voilà.
Non, mais franchement, non. Je veux dire, il y a plein de trucs cool. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, non. C'est quoi que j'avais dit? J'avais dit que c'était pas l'autre pays du fromage.
Ouais, non, moi je t'ai dit, tu vois.
Pardon, 100% objectif. Je suis extrêmement serein sur cette phrase.
T'as fait un gratin de macaroni, je t'ai demandé quel fromage, voilà. T'as dit pas cette merde des dames et de Gouda.
J'ai pas dit ça comme ça. C'est toi qui m'as proposé Gouda, et moi j'ai fait l'amour, et j'ai dit non, si tu veux, doucement. Il y a 8 fromages devant le Gouda.
Doucement, je vais pas mettre de smecta sur mon gratin.
Voilà, désolé pour la commu. La commu l'herdameur. Ça va bien se passer.
Bœuf-carotte aujourd'hui.
Bœuf-carotte, du bœuf et des carottes en sauce. On laisse mijoter.
Très bien.
Et c'est très bon.
C'est très classique.
Un peu de pain pour saucer, est-ce que c'est cool?
Ah, voilà. Pas de campagne.
Comment?
Pas de campagne.
Ouais, par exemple, même une bonne baguette, une bonne là, baguette. T'es content. Tout à fait.
Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui?
Du lapin aux oignons. Avec des petites pommes de terre. C'est bon ça. C'est
mon lapin aux oignons, ouais, ça va, on se fait plaisir.
C'est hyper facile à faire.
Ah oui. Bah tu mets le lapin, puis tu mets des oignons.
Non, tu mets les oignons.
T'enlèves la peau du lapin quand même. Enlève la peau,
vas-y. Tu rajoutes les petits légumes.
Ah bien sûr.
Mais il faut bien faire griller le lapin en premier, c'est ça le secret. Tu le fais bien griller et après tu le fais mijoter un peu à vapeur, tu mets un couvercle.
Ah oui.
Ouais. Il y a 2-3 trucs.
Donc facile, mais pour toi, quoi. C'est facile à faire.
Non, mais ça va.
Si vous saviez ce que c'est que manger avec Léonce, hein. Franchement, ça, je vous l'assure. Moi, je vais être sur on continue la tournée, un pot-au-feu, hein, donc on y va, là, sur les plats d'hiver, hein, on y va. Mais depuis qu'il y a eu le débat Crozifel versus Tartiflette, je sais pas si t'as suivi ça, là. C'était méchant. Ah bah. Il y en a qui l'ont pris très personnellement. Allez, sur ce, Alex, je vois que t'es chaud, il est en train de nous demander.
Pardon, comme... sonne, hein.
Il y a le président de la Hollande qui l'agresse. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là?
Il fait son statement.
Il y a Yabstam qui m'appelle.
Alex. Allez, je vais te donner évidemment la petite tablette ici avec le marqueur et l'effaceur. Tu sais quoi faire avec. Je sais pas, on fait une mention honorable. Attention, ça va se spoiler. Moi, je sais pas si j'ai envie de faire une mention honorable. Hein.
Bah, le problème, c'est qu'il y a tellement de possibilités que.
Ok.
À la fin, on fera des mentions. Je suis d'accord.
À la fin, on fera des mentions.
Ouais, je suis d'accord. Il y a quand même du risque.
Ouais. On démarre en place numéro 10.
Oui. On démarre en place numéro 10.
Et bah allez, c'est parti, Alex. Tu peux écrire sur ta tablette puisque nous sommes en place numéro 10 du top 10 all time.
Oula,
des
ça
plus grands.
Pas trop, ça.
Ah, j'en ai un autre. Sûr, hein, sinon j'ai un noir. Là.
Non, c'est bon.
On est bon.
Ouais.
Aïe aïe aïe. Et moi, je vais devoir démarrer avec de la blessure.
Ouais, c'est plus que de la blessure.
Alex, en place numéro 10, qui nous a mis Len Bias, qui nous a mis une croix.
Oui.
Et moi, j'ai mis Tyrese Haliburton, Game 7, 3 petits points.
T'as pas mis de croix?
Non.
Ouais. Ouais, j'ai pas mis, tu vois, Tyrese, mais waouh.
Je te laisse parler de Len Bias. Hein. Oh là 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 la vache.
Bah, Len Bias, je le mets en 10. Je le mets en 10, je vais raconter l'histoire, évidemment. Donc, c'est l'histoire d'un, d'un joueur universitaire monstrueux qui défonçait tout avec Maryland, je crois.
Ouais.
Défonçait tout et tout. Il se présentait à la draft 86. Et à la draft 86, il se trouve qu'une certaine équipe s'appelant les Boston Celtics avait le pick numéro 2.
Champion en titre.
Je vais vérifier. C'est pas que champion en titre, les Celtics de 86. C'est pas champion en titre, les Celtics de 86. C'est le hit des Heatles de 2013. C'est ce genre de champion en titre, quoi. C'est chaque 2001, enfin chaque 2000, les Lakers 2000. Enfin, tu vois, c'est ce. Ça domine la ligue de fou. Ils sont champions en titre et c'est bien ça. Hein. Ils ont le deuxième pick de la draft. Donc, vous irez voir les détails, mais. Red Auerbach, bien joué.
Oui, et puis j'irai voir les détails de cette draft de la poisse ultime.
Ah ouais, poisse ultime. Mais alors, sur Len Bias, voilà, c'est terrible. Et donc, Len Bias est drafté en 2 par les Celtics. Il va avec son père à Boston juste après la draft pour discuter. Il y a Reebok qui s'intéresse à lui, qui est prêt à lui mettre un contrat équipementier assez gros. Len Bias, c'est 2m03, c'est un athlète de fou malade. Les Celtics se disent, on va associer ça à Larry Bird, à Kevin McHale, à Robert Parrish et tout, et ça devrait bien se passer. Voilà ce qu'ils se disent. Et honnêtement, il n'y a pas les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui et tout, mais c'est une dinguerie. Faut le dire.
Il est comparé à Jordan.
C'est le Thunder qui rajoute Dibansa, quoi. Et on est là, genre, et d'ailleurs, rigolez pas parce que c'est possible cette année. Voilà. Mais. Bon, bref, on en reparlera. Mais tu vois, on rigole comme ça, quoi. Tu vois, voilà, on rigole comme ça. Mais concrètement, c'est une équipe ultra forte, ultra dominante qui rajoute un rookie de fou furieux, un rookie qui est censé se faire mentoré par des Larry Bird, des Parrish, des McHale et tout, et prendre la suite et assurer la pérennité de ces monstrueux Celtics. Et Len Bias va donc vivre cette draft. Ensuite, il va rencontrer les dirigeants de Boston et tout machin pour tout bien mettre en place. Je vous ai dit, il y a Reebok qui est dessus. Enfin bref, c'est la nouvelle star. C'est le gars qui peut défendre sur Jordan. Si on se dit, tu vas voir les Bulls. On va bien leur faire à l'envers. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et malheureusement, quand ce jour-là, on est au lendemain de la draft, hein, il va avec son père et tout. Ensuite, il retourne sur le campus de sa fac. Et puis, c'est un jeune, quoi. Il a, quel âge il a? 18, 20 ans.
À l'époque, ils font des longs cursus, donc ouais, il a 21 ans, je pense.
Tête, allez, bouge pas. 22 ans.
Ah, 22 piges.
22 ans, on est le 19 juin 86, donc on est deux jours après la draft. Et puis, petite teuf avec les potes hein, pour fêter ça. Et il va mourir d'un arrêt cardiaque dû à une consommation sûrement super surdosée de cocaïne. Mmh. Il va décéder, et c'est un drame fabuleux, et c'est un what if. Fabuleux. Enfin, fabuleux, vous m'avez compris. C'est un drame, genre, d'une tristesse absolument folle, et qui va choquer pas mal de monde du côté de Boston et dans la NBA, et qui va donc, comme je le dis, générer un what if incroyable. Alors, moi, je le mets qu'en 10.
Pendant longtemps, il a été très très haut.
Oui, mais en fait, là, je le mets qu'en 10, parce que quand on prend un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à tous les autres what if, j'ai des what if beaucoup plus concrets. C'est-à-dire que je le mets qu'en 10 parce que, un, oui, c'est un monstre. Par contre, des monstres à la draft qui arrivent et qui font pas une carrière si folle, et on en a vu des paquets. Ensuite, ça va, les Boston Celtics, il y a du palmarès quand même. Tu vois, c'est pas. J'ai d'autres franchises là qui se sont chiées à la draft, et c'est pas qu'elles ont pas eu de. C'est pas qu'elles ont vécu des drames comme ce qu'ont vécu les Celtics avec Len Bias, parce que le décès d'un jeune joueur au lendemain de la draft, il y a pas pire comme drame. Mais c'est, tu draftes des mecs qui vont faire que de se blesser, ou tu draftes à un endroit et en fait, deux places derrière toi, il y a un top 10 all time. Donc, donc tu fais des petites erreurs comme ça, ou tu te trompes un peu, hein. Voilà. Oui, les Blazers. On parle de vous, et vous êtes dans ce top 10. Vous êtes dans ce top 10. Mais, concrètement, on peut pas savoir. C'est pour ça que je le mets qu'en 10, parce qu'on ne peut pas savoir ce que ça va vraiment donner, et ça modifie l'histoire des Celtics, évidemment, mais c'est pas genre, ils ne sont pas à zéro, les types. Ils ont une histoire quand même bien fournie, et au plafond, il n'y a plus de place. T'as d'autres franchises où c'est quand même bien con d'avoir raté ça, parce que pas foule. Donc c'est pour ça que je le mets qu'en 10, on verra, tu l'as dans tes 10?
Non, je l'ai
l'as même pas dans tes 10.
Non, je l'ai pas, mais parce que je pense qu'il y a certaines histoires sur lesquelles on va se retrouver plus on avance dans le top. Hein. Et puis, Il y avait certains où je me suis dit, ah bon, Alex, il va en parler, donc je vais m'occuper d'autre chose. Alex, c'est une histoire d'il y a quasiment 40 ans. On y est, 40
86,
ans.
86, ça fait ouais, quasiment 40
ans. Quasiment 40 ans. Moi, je parle d'une histoire qui a 4 mois. Et je pense que on est encore un peu à chaud, mais plus on va avancer, plus on va se dire quand même ce merdier là. Parce qu'on l'a vécu ensemble, ce Game 7, Thunder Pacers à Oklahoma City, avec un Tyrese Haliburton qui démarre le premier quart, mais pardon. Le Thunder là qu'on voit qui est intouchable, injouable, là, qui est champion. Le scénario est réel, hein. Ils auraient pu perdre ce match. Hein. Ils auraient clairement pu perdre contre Indiana au Game 7.
En tout cas, sur l'entame de match.
Et sur l'entame de match de Tyrese Haliburton, qui était chaud patate, qui rentrait ses 3 points, et dans le premier quart, il se fait cette blessure absolument atroce. Moi, je continue de le dire et de le penser. On ne saura pas ce qui aurait pu se passer sur les 3 quarts temps suivants. Mais l'entame, il ne s'est pas fait ça à l'entre-deux, tu vois. Il ne s'est pas fait ça au bout de 1 minute de jeu et le mec a émis juste de lancer franc. Tyrese était chaud patate. Et le mec était sur un run de playoff légendaire, non pas en étant à 40 points de moyenne, mais parce qu'il avait envoyé quelques gros shoots bien clutch.
Il rentrait des tirs.
Il rentrait des tirs
qui
contestés.
Sont un problème pour la défense.
Exactement. Ça commençait à mettre ses coéquipiers dans la vibe de « Hey les gars, on peut peut-être y arriver ». Et quand ton franchise player commence à faire ce genre de truc dès le premier quart-temps d'un match que tu ne vis qu'une fois dans ta vie, tout peut se passer dans un Game 7. Et peut-être qu'on va reparler d'autres Game 7. En tout cas, moi, il est possible que je reparle d'un quelque chose lié à un Game 7. Tous les joueurs de NBA, tous les coachs, tous les arbitres, tous les commentateurs le disent, c'est un coin flip. Il peut tout se passer dans un Game 7. On a vécu des dingueries, on a vécu des Grant Williams games où le mec il sauve les Celtics face aux Bucks parce que ça galère autour de lui. On a vécu des Kelly Olynyk games, on a vu des Game 7 mais avec des gars mais qui sortent des performances. On a vu des Alex Caruso en Game 7. Il y a tout le temps un héros qui sort du lot. Je continuerai de le dire, ce Game 7, il est ensuite assez bien géré par le Thunder qui va appuyer sur la tête des Pacers et qui va donc s'imposer. Je pense sincèrement que Indiana aurait pu gagner ce match avec Tyrese Haliburton sur deux jambes. Ils auraient largement pu être dans un match à nouveau serré, parce que combien de matchs avaient été serrés avec ces Pacers-là? Et donc, ça ne met rien comme astérisque sur la bannière fabuleuse de ce Thunder qui est champion et qui est en train de nous faire une année civile 2025, comme on a rarement vu dans l'histoire de la NBA, hein, les mecs, quand tu commences à prendre les deux saisons régulières plus...
année civile 2025, c'est nimp.
Plus les playoffs, c'est chaud. Mais je crois que même s'il y a certains fans du Thunder qui sont un peu objectifs, et on reparlera d'eux, moi en tout cas dans mon top 10, je pense que quand ils ont vu ça, ils ont fait « Oh non, c'est atroce, mais pfiou, heureusement qu'on ne revit pas ce qui aurait pu vraiment se passer. » Parce que Haliburton sur deux jambes, je pense qu'on aurait pu vivre une très grosse dinguerie. Et je ne sais pas si les Pacers auront à nouveau une opportunité aussi proche d'aller gagner un titre NBA. C'est pas souvent qu'ils y vont en finale. Et là, tu sens qu'il y a eu... Après, il y a eu Miles Turner qui a été échangé. Puis tu le dis souvent, Alex, la NBA, ça va tellement vite.
Non, mais c'est sûr.
Je pense qu'Indiana, tu peux regarder et dire genre, fuck!
Il y a un vrai what if que je comprends que certaines personnes vont rentrer dans les 10 parce que sur le début de match, tu peux dire, waouh, ça se trouve, Haliburton, à l'extérieur, il fait un match complètement fou. Et
c'est un coéquipier qui prend feu dans le second quart et il y a un mec qui te choque en face.
En fait, le Thunder se retrouve dans la mouise. Ouais.
Et perd un Game 7 à domicile. On l'a déjà vu. On a déjà vu les Warriors à 73 victoires perdre un match. Game 7 à domicile, ça existe, ça aurait pu avoir lieu, ça n'a pas eu lieu. Monsieur Tyrese Haliburton en 10 pour Bibi et Monsieur Len Bias.
En 9.
Tout à fait, on va passer en place numéro 9. D'ailleurs, Alex ne l'a pas dit, mais il le sait, il l'a répété plein de fois, Len Bias, formidable documentaire sur ESPN 30 for 30, pour ceux qui veulent, hein, sur Len Bias, pour revenir sur les coulisses de ce décès. C'était évidemment un drame. Alors là, moi je vais rentrer dans la draft.
Alex,
qui tu as en 9?
Si les Pistons draftent Melo.
Ah, moi j'ai 6 Stephen Curry et drafté par les Wolves. C'est dans des 10 ou pas, Steph?
Oui. Mm-hmm. Oui.
Allez, parle-nous des Pistons. Tiens, ils sont en quelle position en 2003?
Deuxième.
Mais ils ont drafté qui?
Ils ont drafté Darko Milicic en 2003. 2003, c'est une des plus grosses drafts de tous les temps. En tout cas, un des plus gros top 5. Ça, c'est sûr. Après, sur la... l'homogénéité du reste de la draft, on peut discuter, mais il y a du lourd.
Ouf.
Non, mais on peut discuter.
Bon, idiot.
Non, mais tu vois, 96, c'est tellement profond que, voilà, c'est comme, je sais pas, 84, il y a John Stockton en...
Ouais, et puis 2018, on va en discuter bientôt.
2018, c'est profond aussi, il y a du monde. Hein.
Oh la vache.
Shea, il est 10, 11, 12.
Shea, il est 11, Luca,
Mikal,
Trae Young, Jalen Brunson au second tour.
Non, draft de malade. Mais en tout cas, en 2003, LeBron James est le numéro 1 évident de la draft et les Cavs ayant le choix 1, enfin, genre, il n'y a pas trop de surprise. Ce que je veux dire par là, c'est que les Pistons ne peuvent pas nous dire, ah, on savait pas trop, on pouvait pas anticiper. Si, tu pouvais anticiper. Tu savais que tu avais tous les joueurs de dispo sauf LeBron James. Tu le savais. Et donc là, le travail du le front office des Pistons.
C'est qui?
C'est Joe Dumars.
Mm-hmm. Pourquoi tu
rigoles? Attends, je rigole, parce que, Bastien fait le petit regard. Genre, N'empêche que ce qui est assez fou dans ce what if, et c'est pour ça d'ailleurs moi qu'il est entre guillemets que neuf, c'est que bah, c'est un what if de dingue. C'est-à-dire que t'as une équipe où on peut commencer à se dire attends, ils auraient eu les frères Wallace. Enfin, les frères, c'est pas des vrais frères, hein. C'est des frères spirituels. Les frères spirituels Wallace, ils auraient eu Chauncey Billups, Hamilton, et en fait, cette Tayshaun Prince, on ne sait pas comment on leur utiliser, mais tu aurais eu Carmelo fucking Anthony à la place, par exemple.
C'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce qu'ils prennent Melo en deux?
Oh bah. Sinon, ils prennent qui? Mais tu sais quoi, même un Chris Bosh ou un Dwayne Wade, moi, ça me va très bien. Hein.
Ouais.
Ça me va très bien. Mmh. En fait, ce qui ne me va pas, c'est d'avoir pris Darko Milicic. Qui...
C'est ça le motif, c'est et si les Pistons avaient pris autre chose que Darko Milicic?
Ouais, là j'ai mis Melo parce que quand même, je trouve que ça correspondait à pas mal de leurs besoins de l'époque. Scoreur, c'est-à-dire que je dis pas qu'ils avaient pas besoin d'un mec qui défende, mais ils avaient de quoi cacher Melo. Hein. Ils avaient la meilleure ligne des meilleures défenses de la ligue, mmh. avec des intérieurs incroyables défensivement, avec un duo de back courte complémentaire, mais il y en a aucun des deux qui peut être une superstar offensive comme les Melo. Enfin, comme l'est déjà Melo en 2003.
Ah, oui.
De toute façon, la saison rookie de Melo, enfin voilà. Le mec, il arrive, bim, bam, boum, direct, voilà. Hein, oui, il aurait pu. Et donc, c'est une énorme erreur de la part des Pistons, qui est atténuée par le fait qu'on ait la draft 2003 et que les types, bah, en fait, vont être champions, hein, la saison, boum, 2004, sont champions, les types.
Darko, donc, il est champion. Hein.
Donc, en fait, Darko, il est champion rookie. Donc, c'est atténué. On valorise mal cette erreur parce que on l'évalue mal parce que on la sous-estime sûrement. Mais en fait, c'est une erreur de fou. En fait, c'est une erreur de fou furieux. Ils auraient pu drafter un des tout meilleurs scoreurs de tous les temps à Détroit. Et si ça se trouve, en draftant Melo, je sais pas ce qui se serait passé en 2004. Je pense pas que Darko Milicic ait eu un impact tant que ça sur ce titre. Hein, faut pas déconner. Si ça se trouve, ils auraient été champions tout pareil avec Melo rookie. Ah, clairement, c'est possible. Et derrière, parce que les Pistons sont allés en finale en 2005, ils sont allés en finale de conf en 2006, jusqu'en 2008, je crois, ils vont au minimum en demi de conf ou en finale de conf. Avec Melo, un Melo qui grandit, un Melo deuxième, troisième, quatrième année, entouré par ces briscards-là. Non seulement pour les Pistons, c'est pas la même, parce qu'en fait, t'as une arme offensive de fou malade et le côté collectif qui peut s'enrayer, t'as pas les solutions que Melo peut t'offrir, mais pour Melo. Eh, hey, Melo, c'est pas la même carrière. Hein.
Du tout.
Ah, désolé. Hein.
Du tout.
Ça se trouve, il est champion rookie. Si ça se trouve. Ça se trouve, il est dans une équipe compétitive tout le temps, une équipe où il y a des vétérans tout de suite qui l'entourent. Et lui, il bonifie le travail collectif d'une équipe de grands malades. S'il dit un mot de travers, qu'il y a une oreille qui déborde, il y a un des frères Wallace qui va dire, mec, tu te tais, mets-nous 28 points par match et tais-toi, s'il te plaît.
Ouais.
Et ça se trouve, voilà. Je sais qu'il y a des fans des gens qui adorent Carmelo Anthony. Franchement, c'est ça qui aurait pu lui arriver de ouf. Et moi, je trouve que ce what if, c'est si les Pistons draftent Melo, c'est pas pour rien que j'ai mis Melo, que j'ai pas mis Wade ou Bosch. Parce que je pense vraiment que pour les Pistons, c'est fou, mais pour Melo aussi.
Incroyable.
En fait, je pense que Melo, genre, si ça se trouve, il a plusieurs bagues.
Et il a même, je vais en parler un peu plus tard parce qu'il
est dans une toute autre conversation quand on fait des top 100 all-time.
Il est pas du tout
ça n'a rien à voir
avec Tim Hack.
On est là, attends, tu vas quand même pas comparer Melo et Pippen, oh.
Ouais.
Il y a un franchise player avec trois bagues.
Mais KD rêverait d'avoir un Melo dans ses orteils.
Oui.
Je vais en parler plus tard dans le top, mais t'en as parlé parfaitement là.
Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Melo, c'est pour répondre à ce que tu
dis. Bien sûr. Bon, moi, en me rendant compte que j'ai mis Stephen Curry drafté aux Wolves en 9, je pense que j'aurais pu mettre podium. Parce que je me rends compte de l'énormité de ce truc.
Bon, après, ah bah moi, je l'ai beaucoup plus haut.
Hein. Je sais. Mais en fait...
Mais bon, il y a tellement d'options que...
Mais en fait, le truc, c'est que bon, pour ceux qui n'ont pas la story, on en reparlera après avec Alex parce que c'est plus haut dans son top. Mais bon, les Wolves ont deux picks de draft dans le top 10. Ils draftent deux meneurs. Ils prennent Johnny Flynn, Ricky Rubio. Et l'autre meneur disponible après, c'est Stephen Curry. On peut la refaire dans tous les sens. Golden State n'a pas le même palmarès, n'a pas la même dynastie, n'a pas la même histoire. Je le mets là... On va en reparler après en détail, parce que tu vas le faire à la place numéro 2. Non, mais à la place que tu as mis dans Top 10. Je pense que Steph nous a montré dans sa carrière que c'est un joueur exceptionnel, avec une mentalité exceptionnelle et
moi,
une approche.
Je pense qu'on rate, le plein Steph. C'est pour ça que je mets plus.
Là, je suis pas d'accord. Je pense qu'on n'aura pas tout le Steph. Je pense que
tout non.
C'est un joueur exceptionnel qui aurait fait un truc incroyable avec les Wolves, donc il est dans les 10. Hein. Mais tu vois, je trouve qu'il y a le. C'est marrant que t'aies mis Melo à ce moment-là parce que je trouve que le gap, et je vais en parler plus tard, est plus large pour Melo. C'est-à-dire que la carrière n'est pas du tout pareille. Pour Steph individuellement, je pense que ça aurait été un monstre, mais probablement avec un. Je pense avec un palmarès collectif différent. Mais donc quelque part comme Melo, c'est-à-dire que tu vois, ça aurait été peut-être un joueur extraordinaire Steph dans un effectif où le management est nul et donc il l'entoure mal. Mais on va en reparler un peu plus tard, ça te va, parce que je sais qu'il est dans tes 10 et on va pouvoir passer en place numéro 8.
Allez. Hop là. Je reste dans les drafts.
Ah, non, moi je retourne à OKC.
À OKC ?
Ah, bien sûr. Alex va nous parler de draft et moi en place numéro 8, tout simplement, une des questions, une des photos les plus connues hein, du Thunder, et si Harden reste à OKC. James Harden, qui a démarré sa carrière évidemment avec Russell Westbrook et avec Kevin Durant, on va en parler. Et Alex me dit si les Nets draftent Kobe, hein, bien évidemment, dédicace Kerry Kittles et compagnie, on va en parler. Je te parle très rapidement juste,
putain, what if.
Évidemment, de Harden à OKC, oui, parce que oui. C'est quand même pas rien. Hein. Aujourd'hui, on voit James Harden qui est entré dans le top 10 des scores les plus prolifiques de l'histoire de la NBA. On a Russell Westbrook qui est un des meilleurs meneurs de tous les temps, un des plus athlétiques, avec des saisons en triple-double moyenne, etc. On a vu ce qu'est Kevin Durant, lui aussi un des 10 meilleurs scores de l'histoire de la NBA. On arrive sur la fin de carrière de ces trois joueurs et moi, je continue à me demander ce qui aurait pu se passer. Même là, quand le Thunder est champion, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé par le passé et notamment de cette photo de Harden avec Russ, avec KD, où ça fait à peine 2-3 saisons qu'ils sont ensemble que ça va en finale NBA en 2012. Combien de fois je me suis refait ce mini-documentaire d'ESPN sur le soir où Harden est persuadé qu'il va peut-être rester mais que finalement le Thunder se dit on va garder Ibaka financièrement parce que la NBA c'était compliqué à l'époque de garder tout le monde. Harden est en sortie de banc, ça se passe bien avec Nick Collison, mais on aime bien quand même Westbrook avec KD, c'est un meneur avec un ailier, et on a Ibaka à l'intérieur.
C'est déjà Presti hein, qui fait tous ces choix.
C'est déjà Presti, on est là. Donc
c'est important de le préciser, parce que derrière, il a montré qu'il savait faire des bons choix.
Il savait faire des bons choix, tout à fait, mais ce trade, c'est pour OKC, c'est pour Harden, c'est pour KD, c'est pour Russ, et c'est pour les Rockets même, parce qu'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Rockets, c'est James Harden.
Même Harden, il le dit, hein, il le dit, c'était une bénédiction pour
une
moi,
bénédiction
qu'on me file les clés des Rockets.
Bien sûr.
Mike D'Antoni, ça a été une bénédiction pour Harden.
Il est devenu MVP, un des scores les plus incroyables de l'histoire de la NBA, un des GOAT offensifs de l'histoire, un des GOAT offensifs, James Harden. Est-ce qu'on aurait eu le même joueur s'il était resté à OKC? Est-ce que OKC a le même palmarès si pendant des années il y a ça? Est-ce que Kevin Durant reste à OKC en 2016?
Ah non, mais c'est un vrai what if.
Ça, c'est énormissime. Et je trouve que ce qui est fort avec ce what if, c'est que quand tu... Tous les ans, là, les mecs, ils vieillissent, hein, mais tous les ans, cette question, elle revient avec les reporters. À chaque fois qu'il y a une rencontre, oui, Harden meets KD à... je sais pas, avant c'était Phoenix, là, maintenant c'est à Houston, etc. Il y a tout le temps cette pointe de tristesse chez les joueurs, les deux, là. Surtout Harden et KD, parce que KD, on a vu avec Westbrook, c'était un peu compliqué par la suite, mais Harden et KD, il y a une vraie mélancolie de... On pense que ça aurait pu marcher. Et d'ailleurs, les deux vont essayer de se retrouver à Brooklyn. Malheureusement, ça n'ira pas loin sur un autre type de what if.
Ouais, ça peut déclencher un petit what if, ça.
Ça peut déclencher un autre what if. Et donc, Harden, OKC, s'il reste, plein de questions qui émanent de ça. Je pense qu'à l'Ouest, tu vois, les Spurs gagnent le titre en 2014. Je pense que si cette équipe reste soudée comme ça, je pense que l'histoire est totalement différente dans le Texas.
Je pense, ouais.
Sincèrement.
Tout à fait.
Parle-nous évidemment de Monsieur Kobe, quoi, qui aurait eu
même pour les Warriors, hein, je pense que ça peut être différent, parce qu'à partir de 2015, on a les Warriors. En 2015, si le trio est encore là, avec toute l'expérience et tout...
Qui ne va pas à Golden State en 2016, enfin c'est ça. Ah non, il y a des trucs...
Ils ont un trio, enfin tu vois.
Oui, puis Scott Brooks, c'est un des meilleurs coachs de tous les temps, enfin...
Ouais. Voilà. Alors, les Nets. Si les Nets avaient drafté Kobe en 96...
Ah oui.
On en a fait un gros focus, tout un épisode avec Léonce dans le premier épisode de la TBNL sur Kobe.
Allez voir.
Il y a toute une manigance qui s'est mise en place entre Jerry West, les Lakers, Sonny Vaccaro qui était l'agent de Kobe à l'époque. Les Lakers ont réussi à drafter Kobe en 13. en se servant du fait que certaines équipes ont tout simplement passé sur Kobe parce qu'un arrière direct du lycée, tout ça, il y en a que ça chauffait pas. Parce qu'aussi, il y avait un top 5 de malades mentales dans cette draft, hein, Iverson, Marbury, Ray Allen, tout ça, qui avaient cassé des bouches, qui étaient des guards, qui avaient cassé des bouches au niveau universitaire, et qui n'étaient pas des lycéens, donc voilà. Mais il y avait quand même ces Nets qui étaient ultra intéressés. Calipari et tout, qui étaient ultra intéressés par Kobe et qui ne l'ont pas drafté. Alors, ils se sont fait mettre la pression, ils ont eu un peu peur. Bref, soyons très clairs, ils se sont chiés dessus. Ils ont fait un des choix les plus mauvais à la draft qui soit. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là est vraiment bien dégueulasse. Ouais. Parce que t'as pris Kerry Kittle, tu voulais vraiment en arrière. T'as pris Kerry Kittle, ce qui est... Bon, c'est un bon joueur NBA.
C'est un bon cursus universitaire.
Bon cursus universitaire, il a fait une carrière NBA tout à fait honorable, hein, Kerry Kittles, hein. Tout à fait honorable. Voilà, honorable. Mais on parle d'une carrière tout à fait honorable par rapport à Kobe Bryant. Donc déjà, en termes de talent, de upside, de potentiel, de plafond, vous appelez ça comme vous voulez, immense erreur des Nets. Ensuite, bah pour Kobe. Pardon.
Kobe pour les Lakers.
J'arrive sur les Lakers. Mais pour Kobe déjà. Pour le joueur. Ah bah c'est pas la même. Le mec a démarré dans les Lakers de Shaq. Le mec a fait un three-peat étant jeune, en étant le lieutenant d'un monstre.
Puis il y avait Phil Jackson en coach, le mec.
Et il a eu Phil Jackson en coach. Ensuite, on lui a filé les clés des Lakers. Il a fait toute sa carrière là-bas. Donc, pour Kobe, en termes de carrière, de développement, de ce qu'il représente dans le monde de la NBA et tout, ça n'a rien à voir. Ensuite, bien sûr, pour les Lakers... Bah ouais, les Lakers, Kobe Bryant, pour pas mal de gens, Kobe est le plus grand Lakers de tous les temps. Ça se discute.
Oui.
Ça se discute avec du Jabbar, du Magic, ça se discute. Voilà, donc c'est quand même un truc de fou comme discussion.
Ouais.
Ensuite, pour Shaq, on peut dire, c'est peut-être pour Shaq qui a le moins gros what if. Dans le sens où, peut-être que Shaq, le Shaq 2000... Peut-être qu'avec Eddie Jones et Nick Van Exel et les Briscards qu'ils ont fait venir, je dis peut-être qu'il écrabouille tout quand même avec Phil Jacks,
oui,
et les Briscards, et tu ramènes un petit... En 2000, ils ont Ron Harper, non, je sais plus.
Bah,
bref,
oui.
Si, c'est ça. Hein. Tu vois, tu ramènes ces gars-là et tout, et t'écrabouilles. Peut-être. Je dis pas que c'est...
Oui, tu craques contre.
Je dis pas que Kobe lui a pas servi, hein. C'est pas ça. Je dis pas ça du tout. Hein. Je dis juste que c'est pour lui que le what if est le moins gros. Limite pour Shaq, je l'avais dans mes mentions. Pour moi, le plus gros what if de Shaq, c'est qu'est-ce qui se serait passé si le Magic avait bien géré Shaq, qui restait avec Penny,
ah oui, voilà,
à Orlando.
Ça,
tu vois, ça c'est un encore plus gros what if à mon avis du point de vue de Shaq. Je l'ai pas dans mes 10. Mais donc voilà, c'est un énorme what if. Les Nets avaient la possibilité en pick numéro 8 de drafter Kobe Bryant en 96. Ils ont pris Kerry Kittles.
Bon, t'as mis Kobe en 8, pick 8. Hein,
voilà, en plus.
Enfin, c'était là.
J'ai même pas fait exprès, tu vois.
Ah bah tu sais.
Mais oui, effectivement. Comme quoi, hein,
c'est le talent.
Il devait être là.
On va être en place numéro 7.
Place numéro 7.
Tra là là. Moi je vais parler blessure.
Pareil, tiens, moi aussi. Je sais pas si c'est la même. Genou de Derrick Rose. C'est quand même un what if.
Grand il sans blessure.
Ah, grand il sans blessure. Ça, c'est clair que ça aussi, c'est pareil. Ça. Ah oui, non, mais bien sûr.
Derrick, c'est un peu plus haut chez moi.
Ah, c'est plus haut. Ok. Ouais. Après, j'avais tellement de trucs. Mais ok.
Bah, je comprends.
Bah, je suis curieux du coup.
Eh oui, je comprends.
I am curious.
Eh bah, écoute, juste pour faire évidemment rapido sur nos amis qui ont vu grand il. Bon, bah, on l'a dit suffisamment, hein. LeBron avant LeBron. Hein. Ailier, polyvalent, porte-drapeau de la NBA potentiel après la retraite de Jordan. Le mec, c'est triple-double sur triple-double. Handle, puissance, shooting, distribution, rebond, défense, cursus parfait. Le mec, il a tout. Il a tout. Grant Hill, il a tout. Grant Hill, tu débarquais dans la NBA des années 2000, tu te disais, bon, bah, le turfu, c'est Grant Hill. Oui, merci, Vince Carter, Tim Mac et tout ça, toute la clique, mais le patron. Qui va prendre la suite de Jordan, c'est Grant Hill. Tu regardes des highlights de Grant Hill, tu regardes des matchs de Grant Hill avec le cheval des Pistons là sur lui, franchement, c'est hallucinant. Quand on voit aujourd'hui la domination des ailiers à tout faire, des forwards capables des deux côtés du terrain, les takeovers de Grant Hill, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien. Et bah, les impacts, ils sont énormes, parce que déjà, c'est pour Grant Hill. Donc le pauvre, vu le nombre de blessures qu'il y a eu,
Des opérations aux chevilles mal gérées, des histoires en tous les sens.
Il a tapé un staphylocoque à l'hôpital, il a failli mourir,
Grantil. Il a failli mourir,
même en faisant la carte qu'il fait, on considère que c'est un des meilleurs ailiers NCAA, NBA inclus, les plus accomplis de l'histoire du basket américain, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, même, il gère Team USA. Avec les sélections qu'il y a eu.
Il aurait joué avec T-Mac au Magic.
Il aurait joué avec Tracy McGrady au Magic.
Pour T-Mac,
de malade.
C'est un what-if.
Mais pour
de
le
T-Mac.
Magic. Ouais. Et donc derrière, c'est pour Grant Hill, c'est pour l'Orlando Magic. Les Pistons auraient pu continuer avec lui parce qu'on se disait, attends, mais il y a Grant Hill avec Rookie Allen Houston. Genre, c'est quoi aussi la suite de cette affaire? En fait, je pense qu'aujourd'hui, quand on fait un classement des meilleurs ailiers de tous les temps, bah, Grant Hill, il est entre les places. Je sais même pas si on l'a mis dans nos 100. Il est dans nos 100?
Oh, si, quand même, non?
Il est dans nos 100?
Arrête tes conneries.
Bouge pas.
Je vais regarder, tiens.
Ouais, je l'ai aussi.
Tu l'as aussi?
Ouais, bouge pas. Grant Hill, top 100 all time?
Quand
tu l'as mis en combien? Vas-y, tu sais quoi? On va voir si t'as bonne mémoire. Tu l'as mis en combien tième?
80?
Voyons voir. Liste.
Ah, je te fais... C'est pas à la mémoire, là. Je te fais un top 100 vite fait dans ma tête.
Alex Grant Hill, il est 91e.
Eh, bah, tu vois, pas mal.
Moi, je l'ai foutu 82e.
Tu vois? Bon, bah, c'est ça.
Est-ce que Grant Hill, sans blessure, il est devant James Worthy? Oui. Est-ce qu'il est devant Paul Pierce? Oui. Est-ce qu'il est devant Clyde Drexler? Oui. Est-ce qu'il est devant George Gervin?
Est-ce qu'il est devant Paul Pierce? Pardon, j'aime pas trop Paul Pierce, mais genre Paul Pierce, il a quand même des choses que Grant Hill n'a pas. Hein.
Deux chevilles.
Et un MVP des finales aussi.
Oui, tout à fait, mais tu vois, je veux dire,
ah bah quand même.
Il y a un gros bout de carrière qu'on n'a pas de Grant Hill.
Bien sûr, évidemment. Je...
Et aujourd'hui, on est à fond derrière l'ère LeBron James des ailiers à tout faire. Le premier LeBron, c'est Grant Hill. Vraiment, sincèrement. En termes de polyvalence sur ce poste-là, c'était le meilleur. S'il n'avait pas eu de blessure... Pfff. Mais toi, tu veux nous parler d'une autre blessure.
Derrick Rose. Je mets en 7. Ne vous énervez pas si c'est votre top 1. Vous êtes sous le coup de l'émotion. Non, mais plus
tout
sérieusement... c'est terrible ce qui est arrivé à Derrick Rose. Derrick Rose qui en 2011 devient le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA.
Oui.
Devant LeBron James et devant Dwight Howard, je crois.
Bien sûr.
Y en a qui disent que ça aurait dû être LeBron ou Dwight et tout machin, mais enfin, il envoie du sale, le Derrick. Hein.
Bien sûr.
Un des meneurs les plus athlétiques qui soit, quand il était à 100%, complètement dingo. Le mec est pas si grand, c'est complètement fou. Les dunks, les contres qu'il peut mettre, la vitesse, les changements d'appui, c'est complètement dingo. Il porte les Bulls du haut de ses 23 ans, la saison d'après son MVP. Il porte les Bulls, même s'il est un peu blessé, il joue une quarantaine de matchs jusqu'en playoff. Et là, premier match de playoff contre les Sixers, si je dis pas de conneries.
Bien sûr.
Premier match de playoff, match 1. Match 1 des playoffs. Transition, contre-attaque, appui, anodin l'appui.
Jump step, classique.
C'est un petit euro step, même pas jump step, enfin vraiment c'est un truc...
Un truc qu'il a fait 6000 fois.
Un truc que la plupart des meneurs NBA font plusieurs fois par match, quoi, tu vois. Et ben l'appui, ça craque dans le genou, il se tord le genou, il sort, et là, on le sait pas encore, mais on vient de voir la fin de Derrick Rose. C'est-à-dire qu'après...
Et de ses Bulls.
Le Derrick Rose qui va revenir derrière va essayer plein de choses. Il reviendra jamais au quart du niveau qu'il avait.
Non,
et les Bulls vont envoyer du sale hein, sous la houlette de Joakim Noah, Lou Holdeng, Jimmy Butler va éclore, Carlos Boozer, tout ça. Oui, Thibodeau, machin, mais rien à voir. Puisqu'il leur manquera toujours cette dynamite à la main, sans faire offense à Kirk Heinrich ou à Nate Robinson, des gars comme ça qui nous ont fait kiffer, hein, mais c'était pas Derrick Rose. Donc, le what if est immense. On parle d'un MVP, du plus jeune MVP de l'histoire, qui était All-Star plusieurs saisons de suite avant de se blesser.
Donc lui, on avait vu le niveau.
Ouais, on avait vu le niveau, et la seule question qu'on avait envie de savoir, c'est est-ce qu'ils peuvent être vraiment les patrons de l'Est, puisqu'au même moment, on a les Eagles. On a les Celtics qui sont encore sérieux, hein, attention, hein, voilà. Et donc, il y a les Pacers de Paul George, Roy Hibbert et tout qui sont en train de monter en gamme. Donc, il y a un vrai truc et on se dit, mais non, mais attends, les Bulls, en fait, ils sont trop équilibrés. Enfin, il y avait vraiment un truc autour de ces Bulls qui s'est complètement brisé avec le genou de Derrick Rose. Donc, pour moi, c'est vraiment un énorme motif. C'est pour ça que ça rentre dans mes 10, mais entre guillemets, que en 7.
Je vais en reparler à une prochaine case. Potentiel, on va passer en place numéro 6. Ah là là.
Place numéro 6.
Place numéro 6. Qu'est-ce que j'ai, moi, là, en place numéro 6? Ah oui.
Alex nous parle, et va nous parler en détail, de Stephen Curry, cité drafté par les Wolves, Kings Lakers 2002.
Ah, c'est dans mon top 5.
Très bien. Moi, c'est 6ème.
Oui, voilà, mais tout à fait, mais c'est dans mon top 5.
Allez, parle-nous du coup en détail de Steph, puisque j'en parlais tout à l'heure, il était en place numéro 9.
Oui, tu vois, je l'ai un peu plus haut que toi quand même, parce que j'ai même hésité à le mettre dans mon top 5, hein, parce que, en fait, le what if, il y a... J'aime bien les what if où on peut un tout petit peu plus se projeter. Là, il y a vraiment trop de choses. On parle d'un what if de draft. Donc, il y a énormément de choses qui restent à découvrir derrière. Et donc, on connaît la carrière de Steph Curry aujourd'hui. C'est la draft 2009, c'est ça ?
2009, ouais, je dirais, Steph.
Donc, Ricky Rubio et Johnny Flynn pris devant lui. Hein. Steph, c'est un choix 7 de draft. Je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont le 5. Ils ont le 5 et le 6.
Ils ont 5 et 6. Ils font Ricky Rubio, Johnny Flynn, ouais. Puis Steph.
Ouais. Et les Warriors,
enfin,
ils font.
Les Warriors font. Ah, bah merci.
Les Wolves font Ricky Rubio. Les Wolves font Johnny Flynn et les Warriors, ils sont là, genre.
Ah, merci pour le meilleur joueur de l'histoire de notre franchise.
Et le meilleur shooter de tous les temps. Et un mec qui va révolutionner le jeu.
Meilleur meneur d'histoire.
Voilà, ouais. Peut-être le meilleur meneur d'histoire. Ouais. Peut-être un top 10 all-time.
Oh là là là.
Bah quoi, on va pas le mettre devant Magic comme ça. Comme ça.
Mais est-ce qu'un joueur
on peut en discuter quand même.
Est-ce qu'un joueur aussi fort. Alors évidemment, le palmarès chance, mais est-ce qu'un joueur aussi fort n'est pas quand même une certaine version du monstre qu'il est. Toute franchise confondue.
Il n'aurait pas été nul parce qu'il aurait été drafté par les Wolves. Si je ne vais pas dire ça. Je pense sincèrement qu'il aurait été moins bon, qu'il aurait fait une mauvaise carrière. Déjà parce que les Wolves ne sont pas une franchise aussi fonctionnelle que ne l'ont été les Warriors.
C'est même...
Et la construction, derrière, tu prends Klay Thompson,
c'est même l'opposé.
Tu prends Draymond Green, tu as des petits coups malins, un petit Iguodala, et tiens, Monta Ellis, il prend de la place à Steph. Les Wolves, il lui aurait mis Monta Ellis dans les passes. Ça se trouve, Steph, il aurait fait 6e homme, je ne sais pas combien de saisons. Rigolez pas, c'est possible. Hein. Vraiment, les Wolves, c'est ce genre de franchise. Donc, voilà. Et Balapekovic, hein. Et Steph, s'il te plaît, tu vois, attention.
Ils auraient potentiellement fait de la grosse merde avec Steph.
Il y a moyen d'être vénère. Et tout d'un coup, on voit Steph se faire trader dans une franchise un peu plus fonctionnelle, sauf que bah, il a déjà 30 ans et on dit ah merde, c'est con. Là, au moins, tout de suite, il y a une franchise qui a misé sur lui. Plus les blessures qu'il a eues en début de carrière ont été quand même bien gérées et par Steph et par sa franchise.
Ça oui.
Donc ça, est-ce que ça aurait été la même chose aux Wolves? On peut pas le savoir. Donc déjà, pour Steph Curry, c'est un what if de malade. Les Wolves voulaient un meneur en 5 et en 6. C'est ça, hein, t'as pas vérifié, bon, on s'en fout. Deux fois, les Wolves ne l'ont pas pris.
En fait, je buguais parce que c'est...
Et il a atterri aux Warriors, ce qui est fou.
C'est pour les Warriors, moi, le what if qui me sidère. Parce qu'aujourd'hui, pense que personne ne se souvient... Enfin, personne, non. Je pense que certains membres de la commu sont avec nous depuis assez longtemps, mais il faut comprendre que entre... 1980 et 2012, les Warriors, c'est les plus grosses punchlines de l'histoire.
Si les Warriors ne bénéficient pas de cette énorme erreur des Wolves, c'est quoi les Warriors? C'est quoi
5 Rubio, 6 Flynn, 7 Curry.
C'est quoi les Warriors si Steph Curry est drafté à Minnesota et que par exemple les Warriors prennent du coup Rubio ou Johnny Flynn, enfin on s'en fout, voilà.
Ou Jordan Hill.
Ouais, ou n'importe qui d'autre, qui tu veux. Voilà. Bref, c'est quoi? C'est Rick Barry, les Warriors. Voilà ce que c'est. C'est on est là,
c'est
ah ouais, Nate Thurmond, rappelle l'époque Nate Thurmond. Attends, les Warriors, ils ont un palmarès, hein, et Nate Thurmond, il y a Wilt. C'est ça, les Warriors.
C'est We Believe.
Faut comprendre.
On répète.
Et on dit, ah, trop bien, en 2007, ils ont passé un tour de playoff, et ils ont fumé le favori, c'était les Mavs et tout, rappelle-toi. Qui sont des histoires incroyables, hein, et qui nourrissent l'histoire d'une franchise, c'est pas le problème. Juste là, de quoi on parle? On parle d'une dynastie, là. On parle d'une dynastie, on parle d'un leader incroyable, du meilleur shooter de tous les temps, qui débarque dans ta franchise parce qu'il y a une franchise qui voulait des meneurs avant, qui l'a pas pris. Et c'est un coup du sort incroyable qui change certainement de manière non négligeable la carrière de Steph Curry, mais qui est une révolution totale pour l'histoire des Warriors. Totale.
Ouais, même du
moi,
basket.
C'est pour ça que j'hésitais au top 5.
Ouais, je comprends.
Parce qu'en fait, t'as l'histoire d'une franchise qui est en jeu, là.
Ouais, et même de certains gars. Aujourd'hui, David Kahn, il fait les bonheurs du Paris Basketball. C'est aussi parce qu'il s'est auto-exilé des États-Unis après ce qu'il a fait comme choix. Hein. Cher David Kahn, aujourd'hui, quelqu'un qui croise David Kahn, certes, c'est formidable ce qu'il a fait avec le Paris Basket, mais le premier réflexe, c'est. On en pense quoi de Johnny Flynn?
J'avoue.
Hein?
J'avoue.
Il a été quand même. Kahn
il oh, c'est chaud
ça. Ah, c'est très très chaud. Moi, j'ai juste Kings Lakers 2002, tu l'as?
Oui.
Tu m'as dit dans ton top 5,
oui.
Eh ben, je te laisserai en parler en long et en large, mais spoiler, Ah là là, nos amis de Sacramento, en termes de grosse punchline, est-ce qu'on n'aurait pas une petite bagouze? Et puis nos amis Lakers, là, qui essaient de tenir entre eux après 2001, après 2000 et 2001, est-ce qu'en 2002, ça fait le triplé? Lakers Kings 2002, c'est du sale, et alors là, par contre, c'est du concret, parce qu'on a su, par la suite, qu'il y avait des arbitres qui étaient louches. On va parler FBI, après avec Alex, on va parler sanctions, on va parler prison, donc il y a du concret, et peut-être que Sacramento peut se poser des questions sur... son palmarès s'il n'y avait pas eu une affaire aussi chum dans l'histoire de la NBA. Mais on va en parler un petit peu plus
très,
tard.
C'est très chaud, là, je préfère pas m'énerver tout de suite. Mais...
C'est pour ça, je sais que t'aimes bien t'énerver, donc je te laisse
très,
après.
Très, très, très chaud. Très, très chaud. Bien.
On va rentrer en place numéro 5.
On rentre dans le top 5.
Alors, qu'est-ce que
allez, on rentre
5,
dans le top 5.
Top 5.
Bah là, je rentre dans la zone où j'ai un top 5, mais j'avoue que le classer n'est pas si simple. Mais je vais quand même.
Écoute, moi, je vais pouvoir être assez clair puisque tu en as très très bien parlé. Melo Pistons. Ah, Alex nous a mis l'orteil de KD. Et moi, j'ai mis, je l'ai un peu plus haut. Et
plus haut. Hein, c'est bien. T'as raison, j'ai hésité. C'est bon, dinguerie.
Après, tu vas voir, spoiler, il est en 4.
Ah bon. Okay.
Melo Pistons. Alex en a très bien parlé. Alors, je vais pas compléter plus d'autres choses, mais vraiment, j'insiste, je suis tellement content que t'en aies parlé. Melo. Ad vitam aeternam, c'est un des attaquants les plus respectés de l'histoire de la NBA. C'est un des bagages offensifs et techniques les plus renversants qui existent. C'était un mec tout bonnement indéfendable. Les rôles modèles et les coachs de Carmelo Anthony, no disrespect, mais ça a été Kenyon Martin, Allen Iverson, et son coach, c'était George Karl.
Tu disrespect, là.
Oui. De toute façon, tout ce qui commence par no disrespect, mais souvent, c'est suivi par
souvent,
une dingue.
Souvent, c'est un gros disrespect.
Ouais. Ah non, mais
souvent, avec tout le respect, voilà. Souvent, quand ça commence par avec tout le respect, c'est qu'il va pas
c'est
y en avoir.
C'est qu'il a du sale.
Ouais.
Je pense que si Carmelo Anthony est coaché par un peu de Larry Brown et les vétérans dont tu as parlé, et pas George Karl, Kian Martin, et par la suite en vétéran leader Allen Iverson, je pense que l'histoire n'est pas la même. Je pense que Melo, techniquement et physiquement, il reste le même, sauf qu'on lui apprend le winning basketball. Le vrai, le concret. On ne le laisse pas tourner, là, en freestyle, en open bar à Denver, avant de partir parce qu'il n'est pas content à New York.
Je pense qu'il prend du plomb dans la tête.
Et il prend tellement
c'est
de plomb.
C'est pas la même carrière.
C'est pas la même carrière. Et on parle de la carrière déjà d'un joueur qui fait partie des meilleurs scores de tous les temps. Mais là, du coup, tu lui ajoutes le palmarès. Mais
c'est quoi,
c'est
peut-être
pas
il aurait mis 2-3 000 points de moins en carrière. Par contre, je pense qu'il aurait une armoire à trophées, ce serait pas la même.
Absolument. Et donc, pour les Pistons, c'est pas la même. Pas du tout. Et donc, pareil, j'ai mis... Et si Melo, numéro 3 de draft à Denver, va à Détroit, numéro 2 de la draft? Parce que oui, en effet, on peut mettre Dwayne Wade ou Chris Bosh ou Boris Dio.
Le talent Camille identifié, Corver. C'était quand même Melo derrière
c'était
les
Melo. Et ouais. En fait, Joe Dumars, il le sait. Il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Tu l'as dit, titre en 2004. Puis on va voir ce que ça va donner avec Derrick Queen et Jeremy Fiennes, puisqu'il a fait quand même quelques trucs néfins. Mais oh, moi, à chaque fois que je vois Carmelo Anthony, je repense à cette draft avec les Nuggets et de me dire, merde, putain, mais Melo, ça aurait pu être le meilleur ailier de l'histoire des Pistons.
Oui.
Genre, il a pu regarder Mark Aguirre, Hamilton, Grant Hill, toute la clique, Dantley, tout ça, et dire
ah,
genre,
Dantley,
en fait.
Il le regarde fort.
Ouais, bah en fait, c'est moi.
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Et donc, il y aurait moins d'écart de.
Et
genre,
quand tu fais un top 10 des ailiers, tu serais là en train de te dire, putain, c'est vrai que Melo, il a quand même 3 bagues. Bon, ça le positionne, hein. Ça le positionne devant Larry Bird, en fait. Hein.
Aujourd'hui, à la table, on dit qu'il y a LeBron et KD, et on aimerait bien mettre un strapontin pour Melo. Je pense qu'on parlerait différemment. On dirait peut-être que LeBron et Melo. C'est un peu plus proche dans la hiérarchie all-time et qu'un Kevin Durant essaiera de les rattraper.
Ça regarderait Bird droit dans les yeux, tout ça.
Parle-nous en numéro 5 de KD, puisque je l'ai en numéro 4.
Ah ouais. Ouais, non, c'est non, dans non. Mon top 5 des What If.
Yes,
parce qu'en fait, j'y ai pensé assez vite, parce que c'est un What If déjà, parce que... Rappelez-vous, donc on est en demi-finale de conf, c'est important.
Juste moi j'écris l'orteil, ça veut tout dire.
Bucks, l'orteil. Nets. On est en demi-finale de conf, match ultra serré, Game 7, qui a lieu à Brooklyn, si je dis pas de bêtises. Hein.
C'est à Brooklyn, Game 7 passe au Bucks.
Qui a l'avantage du terrain. Donc c'est un Game 7 à Brooklyn. Sur le terrain, côté Bucks, il y a Yanis, il y a Jrue Holiday, il y a Brook Lopez, il y a Chris Middleton, je sais pas qui c'est, ça va être PJ Tucker. Ou
ah, PJ Tucker qui prend la sauce dans
voilà.
Tous les sens.
Hein. Sur le terrain, côté Nets, il bah, y a James Harden
blessé Blake Griffin
comment il y a Blake Griffin, il y a Joe Harris, je crois que c'est Bruce Brown et KD. Bref, KD dans un Game 7 envoie une performance, c'est n'importe quoi ce qu'il envoie KD alors qu'il a une défense sur lui très relou, c'est n'importe quoi ce qu'il envoie. Le match est ultra serré de bout en bout, il n'y a quasiment pas de, il n'y a pas tant que ça de très gros écarts ni rien, et les Nets sont menés de 2 points. Il y a, si ma mémoire est bonne, il y a 109 pour les Bucks et 107 pour les Nets. Il y a une remise en jeu à faire pour les Nets. Il y a temps mort, remise en jeu et tout. Balle à KD.
Il faut envoyer là.
Le type prend la balle. Il est mal placé. C'est la merde. Il shoot en se retournant. Un truc quand même pas ouf, hein, on est d'accord. Hein. Franchement, un truc où quand même, 9 fois sur 10, c'est une bricasse, ça fait « Ah, dommage et tout, bravo les Bucks, vous êtes en finale de conf. »
Mais pas Kevin Durant.
Pas avec Kevin Durant. Filoche, propre. C'est propre hein, ce qu'il met. Hein, et tout. Et là, tout le monde pense sur le coup que c'est un 3 points. Donc, victoire de Brooklyn.
En tout cas, il reste genre 2 dixièmes, un truc comme ça.
Il ne reste pas de quoi shooter, je crois. Je crois qu'il n'y a pas de quoi shooter derrière le tir. Vraiment, attends. Bon, faudrait vérifier le play by play. Mais faudrait vérifier. Peut-être qu'il y a de quoi shooter. Allez, peut-être que je suis dur. Peut-être que c'est un game winner, mais peut-être que les Bucks avaient un petit shoot à prendre derrière. En tout cas, tout le monde pense que KD vient de mettre un 3 points et donc de donner l'avantage aux Nets 110-109 sur les Bucks qui, sauf un miracle de fou furieux façon Fisher ou quoi, n'auraient pas pu, je pense,
scorer. Il reste scorer. Une seconde.
Ah, il reste une seconde. Donc il y a le temps de dégainer. Middleton a le temps de nous faire une dinguerie. Parce que c'est genre de shoot pour Middleton, ça, en 2021. Hein. Voilà. Ou un petit lob pour Giannis, j'en sais rien. Enfin, ils ont le temps, mais c'est quand même chaud. Ouais. T'es d'accord. Ça sent la victoire. Mm. Ça sent la victoire au Game 7. Sauf que les arbitres regardent le replay, font une petite review et se rendent compte que l'orteil de KD, qui doit chausser du 56, mord sur la ligne à 3 points. Et donc, ce n'est qu'un 2 points. Donc, il y a égalité. Et donc, ce match va aller en prolongation. Prolongation qui va être une guerre de tranchées. Et ces Bucks de 2021 sont imprenables en guerre de tranchées, hein, la suite le montrera, et vont remporter cette prolongation et se qualifier pour les finales de conf. Pourquoi je mets ce what if aussi haut et Bastien le met carrément encore plus haut en 4? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, pardon, cette équipe qui gagne cette série allait en finale NBA, sans faire offense à tes Hawks.
Je suis le premier à le dire.
Je les vois, ils n'ont pas battu les Bucks, ils ont pris 4-2. Ils n'auraient pas battu ces Nets-là, je n'y crois pas.
Moi non plus.
Ces Nets-là allaient en finale NBA. Mmh. Clairement. En face, il y avait les Suns, très chaud, mais honnêtement, en tant que fan des Suns, je dois reconnaître que jouer Harden, KD, avec Tucker, Brook Lopez, tout ça et tout, ça aurait été une putain de finale intéressante. Limite, je pense qu'en tant que fan des Suns, je préfère
enfin, Harden, KD, tu disais Tucker et Brook Lopez, ils sont chez les Bucks. Tu veux dire Harden, KD, Blake Griffin.
Blake Griffin, Bruce Brown.
Peut-être Kyrie revient.
Peut-être que Kyrie revient et tout. C'est chaud. Ouais. Pour les Suns, est-ce que c'est une position plus compliquée que ce qu'ont mis les Bucks? Ça reste à prouver. Parce que les Bucks, avec Jrue Holiday, ils avaient quand même les moyens de faire ultra chier Chris Paul, ils dominaient la raquette. Enfin, je sais pas en fait ce qui se serait passé. Par contre, ce que je sais, c'est que il y aurait eu Kevin Durant, James Harden et peut-être le retour de Kyrie Irving en finale NBA. Ça, c'est un what if. Ça, c'est un très gros what if parce que au fond de moi, je peux pas m'empêcher de penser quand même que les Suns auraient eu du mal à la gagner, celle-là. Malheureusement. Ouais. Et que de toute façon, si jamais les Suns la gagnent, bon, de toute façon, là, c'est un des plus grands what if de tous les temps.
Non, bien sûr.
C'est numéro 1. Mais je peux pas trop savoir. Mais en tout cas, voilà. Et donc, on en revient à un truc, c'est-à-dire que si les Bucks ne vont pas en finale, déjà, Giannis, comment on parle de lui? On peut discuter.
Ça, je vais
voilà.
Dire,
hein. Ensuite, bah, Kevin Durant, en termes d'héritage aussi, s'il est allé nous gagner une bague avec Brooklyn, avec des tirs comme ça et des playoffs pareils, c'est quand même pas du tout la même. Donc, ou alors, je sais pas, les Suns la gagnent, Booker, MVP des finales, avec Chris Paul Baguet. Ouais. Tu vois, genre, c'est un sacré what if, donc c'est top 5.
On est bien d'accord.
Numéro 4, Alex en a très très bien parlé, donc moi j'ai mis l'orteil. Hein. Alors pas besoin de rajouter par rapport à toute l'histoire qu'Alex a fait, mais oui, Giannis, on n'en parle pas du tout pareil chez les Bucks. KD qu'on n'arrête pas de dire, oui, bah t'as ride nos amis les Warriors, bravo pour ta vague de gros carry the ring là, alors qu'on sait que c'est l'équipe de Steph. Pas du tout la même legacy, pas du tout, pour Harden, pour Kyrie, Chris Paul s'y gagne avec Devin Booker, trop de choses. Et puis, bah, je rappelle quand même l'immensité de cette action, puisque derrière, j'étais en Allée Café en direct sur Twitch avec Antoine Griezmann qui met des subs à 5h du matin. Le lendemain, reportage BFM en pleine compétition de l'équipe de France. Est-ce que les joueurs de l'équipe de France se couchent trop tard? Parce qu'on a vu que Grisou était sur le Twitch de Bibi. Voilà, ça, c'est un grand what if aussi. Merci Kevin Durant et ton orteil. On va donc passer place numéro 4. Moi, j'ai mis l'orteil. Toi, tu nous as mis le shoot de Kawhi.
Donc le what if, c'est si le shoot de Kawhi ne rentre pas. C'est un gros what if, tu sais. Ouais. Tu sais que c'est un gros what if, ça C'est un très très gros what if. On est quand même sur la clé de voûte de ce run incroyable des Raptors. Derrière les Raptors, Donc on est sur un Game 7, on est en demi-finale de conf, j'ai deux Game 7 de demi-finale de conf. C'est pour ça que je peux pas les rentrer dans mon podium, parce que c'est entre guillemets que des demi-finales de conf, donc il y a quand même du chemin encore derrière. Et puis on parle de, il y a l'impact sur des très grands joueurs, là plus on avance, plus j'ai de l'impact sur des joueurs de fou furieux. Mais oui,
il y a égalité.
Il y a prolongation. Si
c'est pour ça que je l'ai pas.
Si le shoot de Kawhi ne rentre pas, en fait,
des choses peuvent se passer hein, derrière.
Et ça se trouve, les Raptors se gagnent quand même le match et c'est pas un what if.
Si
ça se trouve, ils le gagnent les Sixers en fait. Si les Sixers le gagnent, moi je me demande si Giannis accède pas tout de suite au final par contre. Parce que Giannis en finale de conf, il se fait un peu coincé.
Il se fait coincé par les Raptors, bien sûr.
Par les Raptors quand même. Autre chose que je me demande. En fonction de l'adversité et de comment sont organisés, les Raptors sont arrivés donc avec une qualité de défense incroyable et une expérience apportée par Gasol, Ibaka, Kyle Lowry, machin, et la qualité de défense en premier rideau de Kawhi Leonard 2019 qui est complètement folle. Ils ont fait la leçon tactico-technique à Giannis et ils sont allés en finale NBA. Ensuite, en finale NBA, ils bénéficient du fait que Kevin Durant, ça peut être un what if limite, hein, si vous avez envie de mettre le fait que Kevin Durant soit blessé pour les finales de 2019.
Oui.
Vous pouvez, hein, parce qu'il y a un three-peat en jeu quand même. Hein, vous pouvez. Hein,
oui.
Tu vois, mais par exemple, je me dis que si les Sixers ou les Bucks, pas les Raptors, avaient accepté à ces finales, ça se trouve, les Warriors, ils le font leur three-peat, en fait. Parce qu'ils ont une équipe beaucoup moins expérimentée en phase 2, avec beaucoup moins de briscards, avec beaucoup moins d'intelligence tactique.
Clay se fait le genou en
Clay se fait le genou et tout. Donc, en fait, il y a beaucoup de what-ifs qui ne sont pas forcément liés de manière directe au shoot de Kawhi, mais qui découlent.
Je vois ce que tu veux dire.
Qui sont dans la foulée.
Moi, j'avoue que j'avais le sentiment que beaucoup de choses peuvent quand même se produire en prolongation.
Bien
sûr. Et que Toronto gagne et qu'ils vont quand même en finale de conf et qu'après ça se déroule. Je t'aurais rejoint si par exemple il y avait moins 1 au score et qu'en fait vraiment Philly gagne si le shoot rentre pas.
Ouais, mais j'ai l'impression que ça les tue moralement ce tir qui rentre.
Ah bah oui.
Philly derrière.
Ah bah oui.
Il y a aussi des conséquences pour Philly derrière.
Jimmy Butler finit à Miami. Hein.
Donc en fait ce que je veux dire c'est que c'est vraiment un très gros what if, même pour la legacy, j'aime pas ce mot, mais on a compris l'héritage de Kawhi.
Ah, bien sûr.
Kawhi.
Ah bah Kawhi après va devenir un des meilleurs. Ah bah Marc Gasol, toute la clique.
Tous ces gars-là, Nick Nurse, Coach Rookie et tout. Enfin bref, en gros, quand même, on est quand même sur un tir. Voilà, ça rentre pas dans le podium, mais j'avais envie de le mettre très haut parce que c'est quand même pas rien, quoi. Égalité dans un Game 7, l'autre il shoot, le truc fait boum, 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 Simon il saute de derrière le canapé et tout. Enfin, c'est quand même une dinguerie comme what if.
Ouais, moi je t'avoue que concernant Kawhi, je me demande si le plus gros what if c'est le shoot ou si c'est le fait qu'il est transféré par les Spurs à Toronto. C'est-à-dire que quand Kawhi dit qu'il veut se barrer, les Spurs vont faire affaire avec les Raptors, DeRozan et Puttle font le chemin inversé. Ça démarre de là, cette affaire. C'est que le mec n'est pas content et que les Spurs décident de marchander à un mec qui va faire une saison absolument all-time, on va dire qu'il est Jordanesque et tout, il le fait pour cette franchise-là. Un an. Peut-être que Kawhi aurait fait ça pour une autre franchise, qui elle peut-être a un titre.
Mais au milieu de ce run de playoff, il y a ce shoot incroyable.
Il y a ce shoot, absolument.
Sans ce shoot, ça se trouve, les Raptors.
Ils n'ont pas de bannière.
Les Raptors ont une bannière.
Ils n'ont peut-être pas de bannière, je suis d'accord. On va rentrer dans le podium. Ouh là là. Alors, là dans le podium, bah moi j'avoue c'est une des premières images qui m'est venue en tête, donc t'en as parlé. Mais oui, il y a Derrick Rose. Il y a Derrick Rose parce qu'on a vu Alex nommer le Kings Lakers de 2002. Derrick Rose, on a vu le niveau. Derrick Rose, si ça se trouve, si ça va et que le genou ça tient, on a, je fais la liste, un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire. Parce qu'il y a des gens, moi je connais, qui ont commencé à suivre la NBA grâce à ce mec. Qui ont commencé à être fans des Bulls grâce à ce type.
Son avènement coïncide avec l'arrivée des highlights, de Twitter,
c'est
un
parfait.
C'est au bon moment.
C'est le mec de la ville. C'est-à-dire que Derrick Rose vient de Chicago et qui fait ça, là. Comme on a eu avec LeBron, avec Cleveland, etc. Si Derrick ramène un titre aux Bulls en tant que joueur de la maison, ah, c'est un truc mais phénoménal. On ne se rend pas compte. À ce registre de jeu-là, aussi spectaculaire, meneur, leader, jeune leader comme on le voit là, avec des mecs qui le suivent et qui le disent encore aujourd'hui. Il n'y a pas un mois sans qu'il y ait un podcast avec les Boozer, les Ronnie Brewer, les Joachim Noah, les Omer Hachik et compagnie qui disent « Ah putain, vraiment, c'était un leader. » quoi. On voulait se tuer pour Derrick Rose. À un âge aussi jeune, d'être MVP, Il pourrait discuter du coup avec quoi? Il aurait qui dans le rétroviseur du coup? Chris Paul, John Stockton, des gars comme ça. On dirait genre bah ouais en fait parce que Steve Nash dans le rétro. Genre on mettrait quoi? Derrick Rose à côté de Stephen Curry, Magic Johnson. Après,
le problème c'est quand même faut aller au bout quand même.
Faut aller au bout bien sûr.
Mais il se blesse au début des playoffs quoi. Il se blesse pas en finale de conf.
John Stockton c'est jamais allé au bout. Il a jamais été MVP.
Non, mais il a été en finale MVP plusieurs fois quand même.
Tout à fait. Mais peut-être que Derrick Rose, vu la trajectoire, on aurait été jusque là. Donc si ça se trouve on dirait bon bah Westbrook c'est derrière. Derrick Rose c'est un meneur incroyable, hyper spectaculaire. Les Bulls. Bah, si ça se trouve, ils ne sont pas l'immondice qu'on a vu par la suite, parce que la décennie 2010, elle démarre très, très, très fort.
Ah, elle démarre très fort, mais ça part en couille après.
Ça part en couille après, mais ça part de là. Ça part de cette blessure. Ça part de là. Et donc, du coup, moi, je pense que Derrick Rose, c'est une des premières images qui m'est venue à la tête, parce qu'en fait, c'est un gars où tu sens que s'il avait pu jouer jusqu'au bout, ça aurait été un de ces joueurs qui, comme Steph l'a été après dans un autre registre, qui attire des spectateurs qui n'avaient jamais prévu de regarder du basket. Il était à ce niveau-là, en fait. Moi, D-Rose, c'est un des plus gros watifs, il est troisième. Toi, c'est Kings Lakers.
Ouais.
Ouais, mais Kobe et Shaq, ils ont déjà des titres. Ça va, il n'y a pas de triplé.
Ouais, par contre, je pense que les Kings auraient une bague.
Ah oui.
J'aime bien, sans faire offense aux Nets de 2002.
Non, il sera fait.
Je pense que les
il sera
Kings,
fait malaxer.
Je pense que les Kings les malaxent fort. Je pense que Chris Webber a une bague. Que Mike Bibby a une bague. Que Peja Stojakovic a une bague. Enfin, il l'aura plus tard, Peja. Que Edo Turkoglu a une bague.
Les Kings ont plus de titres
que les Bobby Jackson. Que les Kings. Exactement. Et en fait, là où les Kings sont quand même une sacrée franchise de lose, il y aurait cette bague qui serait incroyable puisqu'elle serait en plus dans la continuité d'une très belle régulière, d'un beau jeu pratiqué par des joueurs collectifs.
C'est un des plus beaux jeux.
C'est un très très beau basket. Et donc il y a cet aspect-là. Et là où vraiment mon what if prend encore plus d'importance, c'est que c'est un putain de scandale arbitral.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que là, pour le coup, ça, c'est pas un what if. C'est-à-dire que c'est documenté, c'est quasi factuel. Les
Kings, et si les arbitres n'avaient pas été
achetés, se sont fait arnaquer. C'était rigged, c'était de la triche.
Ouais.
Et donc là, il y a quelque chose qui est du domaine de l'injustice où, tu vois, une blessure, c'est injuste, mais c'est entre guillemets la faute à personne.
Ah oh non, là, on sait que c'est de la grosse merde.
Tu vois, une draft, les mecs ont chié, bah oui, les mecs ont mal scouté et tout, ah bah quand même et tout. Ok, mais ça arrive à plein de GM. Plein. Il y a plein de GM qu'on dit « Ah, c'est con parce que il y avait lui derrière. Ben » oui, ok, d'accord, mais ça peut arriver dans plein de drafts, quoi. On peut presque prendre chaque draft et trouver les GM qui se sont chiés, tu vois. Bon, là, c'est le putain d'arbitre qui leur met les types. Ah ouais. Ils sont « Ah oui, il y a le Game 7 et tout. Les cœurs sont fait un gros Game 7, machin, mais ça aurait dû être fini au Game 6. » La série, elle devait s'arrêter au Game 6. Les Kings,
oups,
ils devaient aller en finale. Et franchement, j'adore Jason Kidd, j'adore les Nets, mais non,
Nets.
Non. Il est malaxe, il les domine. Ouais. Je pense que la raquette des Kings, elle les tabasse comme Shaq les a tabassés, d'une manière différente, mais avec des résultats identiques.
Et peut-être que les Lakers explosent un peu plus tôt que prévu, parce qu'en fait, après, on sait, hein, 2002, ça va, 2003, ils sont sortis par les Spurs, après, ils ramènent Armada, Payton et Malone,
ça
mais peut-être
pas.
Que
ouais.
Ça aurait été différent pour
pas.
Eux. Et peut-être que du coup, Sacramento lance aussi quelque chose de long, parce que Sacramento aussi explose.
Ouais. Et la vision qu'on a, tu vois, tiens, regarde un Chris Webber. Chris Webber, donne-lui une bague avec sa carrière, là.
Si Chris Webber est le leader des Kings qui sortent les Lakers de Shaq et Kobe, je pense que...
Tu sais que...
Hein? Je pense que Kevin Garnett a du souci à se faire.
Tu rigoles, mais oui.
Bah, je rigole pas, si je te le dis.
On serait là en train de dire, ouais, mais Karl Malone, il a pas de bague.
Calme-toi,
j'exagère un peu. Mais
tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, c'est pour ça que je t'ai sorti Kevin Garnett.
Ouais, ouais, Kevin Garnett, c'est plus raisonnable, j'avoue, c'est plus raisonnable. Mais...
Carmelo,
non, mais c'est Carmelo, j'abuse de ouf, volontairement. Mais dans le classement des ailiers forts,
ouais.
On serait pas en train de dire ah oh bah non, Chris Webber, il rentre pas dans les 10. On serait pas en train de dire ça.
Non, je suis d'accord.
Donc, voilà, donc il y a trop de choses. Même pour Shaq et Kobe, hein. Ça se trouve, Shaq et Kobe, en se faisant fumer là et tout, t'as raison, ça explose plus tôt. Du coup, c'est pas un sweep, c'est juste un. Juste, entre guillemets, un back-to-back. Enfin, waouh. Non. Voilà, moi, c'est le podium. C'est un scandale, quoi. C'est un scandale.
Moi, je vais écrire une dinguerie là, en numéro 2. Parce que franchement, je suis désolé, mais je crois que c'est la plus grosse peine de ma vie. En plus, ils le savent sur cette chaîne. Pff.
Non, moi, j'ai fait du grand classique en 1 et en 2. Ce sont pour moi les deux plus gros what if de fou.
En numéro 2, Alex, nos amis, si les Blazers draftent Jordan, et moi, j'ai mis si Tim Duncan était sur le terrain en 2013.
Ah, tu veux dire à la dernière action. Ah ouais, tu veux remuer le couteau comme ça, toi? Ah ouais, tu le mets si haut. On a le même numéro 1 alors peut-être? C'est pas ça ton 1 toi?
Si.
Ah, c'est ça ton 1. Ah putain.
Bon, peut-être que j'ai pas un, tu me verras, tu me diras autre chose. D'accord. Mais moi j'ai été trop obnubilé par ce qui s'est passé aussi.
De quoi on parle? De quoi on parle?
Ah, Popovic,
le meilleur,
pas,
le
il
meilleur.
Est pas concentré, qu'est-ce que je dis?
Un des meilleurs rebondeurs défensifs de l'histoire de la NBA. Un des joueurs les plus clutch. Un des mecs qui boxe le mieux de l'histoire de l'ère moderne. N'est pas sur le terrain. Pour une action où LeBron shoot à 3 points et se foire. C'est Chris Bosh qui prend ce putain de rebond. Le what if, j'ai pas envie de dire si Ray Allen mort sur la ligne ou si Bosh prend pas le rebond. C'est Tim Duncan qui est pas sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'un des rebondeurs, les boxeurs les plus efficaces de l'histoire de ce sport qui est le basketball, est sur le banc à regarder le Heat prendre un rebond offensif? Et j'adore Chris Bosh dans le classement des meilleurs rebondeurs offensifs de l'histoire. T'inquiète, il
ouais,
craquera pas les
mais tu vois, c'est marrant parce que...
Non, Alex. Si Tim Duncan... Non, je te laisse, t'as rien à dire. Tu vois, mon niveau d'énervement, c'est tous les jours la même chose. Si Tim Duncan, il prend ce rebond, mec, tu te rends compte?
Oui, évidemment.
Tu me mets pas, Ray Allen, tous les jours dans ces trucs-là.
Tu me dis pourquoi il est pas sur le terrain. Il y a... On parle quand même de Greg Popovich, il sait ce qu'il fait.
Non, avec une... là, à ce moment-là, non, Alex.
Si, y a, il est, les Spurs sont à plus 3, le Heat doit tenter sa chance à 3 points,
et donc Popovich
met sur le terrain un 5 pour switcher et défendre la ligne externe. Et donc, il laisse pas Duncan. Et il y a un bout de logique. C'est pour ça que moi, je ne mets même pas dans mes 10.
Mais en fait, c'est une question. La question c'est est-ce qu'on respecte cette logique là ou est-ce qu'on respecte la logique de Tim Duncan, un des 5 meilleurs rebondeurs défensifs de l'histoire, et peut-être que si ça switch bien il va pouvoir prendre le rebond.
Je dis pas que Pop a fait le bon choix.
Moi non plus.
Manifestement, il a pas fait le bon choix.
Mais vu qu'on parle de line-up,
je peux comprendre le choix. C'est ça que je veux dire.
Tout à fait. Et vu qu'on débat sur les line-up, c'est un énorme motif parce que rien que toi et moi on débat sur est-ce qu'il faudrait respecter cette logique là, est-ce qu'il fallait être sur un 5 où il faut switcher ou est-ce qu'il fallait un gros rebondeur défensif. Et en fait, à partir de là, tout bascule. Le rebond, il est pris par Chris Bosh. On a un des plus quoi. C'est peut-être une des
Chris
fautes Bosh, des actions.
Lucidité, la passe. Enfin, il y a tout.
C'est quoi? C'est on a fait combien de top 10 Ray Allen, le shoot dans le corner, c'est une des plus grandes actions de l'histoire de l'humanité.
Il a 36 ans.
Tu nous as raconté ça 700 fois. Les Spurs, c'est pas pareil.
Excusez-moi.
Le bilan de Duncan en finale NBA, c'est 5-0. On fait comment? Il a 5 finales, 5 fois il est MVP des finales là. Donc Duncan, il est MVP des finales face au Heat. Le Heat, ils ont battu le Thunder, mais donc du coup là, ces gars-là là. Ils font pas le back-to-back, hein.
Non.
Super Littles.
Ah ouais, non, je suis d'accord.
Bravo, hein. C'est super, hein. LeBron, là, qui se foire, là. Attends, LeBron, qui vient de nous faire 2011 face aux Mavs, là. Le dernier souvenir qu'on a de la finale, c'est une brique à 3 points. Mais tu crois que Skip Bayless, il aurait pas fait 12 livres derrière? Et toi et moi, on aurait pas lancé une chaîne?
En termes de conséquences, je valide avec toi. Par contre, en fait, là où je suis pas dans
les 10... Titulé, tu peux faire ce que tu veux.
C'est pas ça. Pour moi... Le what if, je sais pas si c'est un match à what if en fait, je comprends.
Un game 6 de finale NBA.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a plein de what if dans ce match. Il y a Kawhi qui rate des lancers, il y a LeBron qui fait un quatrième quart de fou malade. Genre pour moi, le what if, je n'arrivais pas, c'est pour ça que c'est pas dans mes 10, je n'arrivais pas à sortir le what if de ce match.
Pour moi,
c'est un match où voilà, il y a des choix de coach et le Heat est allé le chercher. Et oui, Popovich s'est probablement trompé en ne mettant pas Tim Duncan sur le terrain. Oui, ok,
trompé ou bien joué de la part du Heat. Juste, il faut reconnaître
bien joué de la part du Heat, machin.
Compagnie, hein.
C'est ça que je veux dire.
Ah, bien sûr.
Tu vois.
Mais moi, je t'avoue que en tout cas là, cette action, on parle donc un des plus grands joueurs de tous les temps où le a pris ce 3 points et s'est foiré. Un des meilleurs rebondeurs de tous les temps n'est pas sur le terrain, donc on a deux des 5 meilleurs joueurs de tous les temps qui sont sur le parquet, donc c'est un what if avec deux monstres absolus. On a une des plus grandes actions de tous les temps qui a lieu ou qui n'a pas lieu s'il y a un gars qui est au rebond à ce moment-là. Je crois que c'est Boris qui boxe Chris Bosh. Hey, Boris, tu sais que je t'aime, hein.
Mais rappelle-toi le match, c'est un comeback. C'est un comeback du Heat. Ils sont à moins 12.
Je te jure que là,
je sais pas combien.
On pourrait faire ça pendant 25 minutes. Les bannières jaunes, elles sont déjà mises.
Bien sûr.
Les Spurs qui souhaitent le trophée, là,
mais
soit salut.
Tactiquement, pour Popovich, il y a un comeback avec une équipe un peu small, qui les fait chier sur les extérieurs.
Je m'en remettrai jamais, c'est un motif énorme. Et j'ai en 1, numéro 1, en effet, Jordan. Donc...
Parce que là, il y a erreur.
Oui,
par contre, là, il y a erreur. Il y a what if et il y a erreur.
Bien sûr.
Hein, t'es d'accord?
Ah, oui.
Là, il y a grosse erreur.
Voilà.
Moi, c'est mon numéro 1 all time.
Ouais, bah, je comprends. Moi, j'ai un autre numéro 1. Donc, on se la fait rapide parce que les gens connaissent tous l'histoire. Les Blazers, en 1984, le choix 1 de la draft est pour Houston. Il y a Hakeem Olajuwon qui sort de l'université de Houston, qui est là, qui est draftable. Les Rockets choisissent de prendre Hakeem Olajuwon.
Ouais,
honnêtement, oui, Michael Jordan, c'est une plus grosse carrière que Hakeem Olajuwon, mais
le gap
t'es Houston, tout, et puis ça va, Hakeem Olajuwon, on peut pas dire genre, oh, le fail. Non. ça va. Il y a des gens qui vont même te le mettre dans les 10 all-time ou pas loin, oui, quoi, oui, tu vois. Donc c'est un monstre. En revanche, effectivement, les Blazers ont pris Sam Bowie dans la raquette. Parce qu'à l'époque, bah, ils ont Jack Clyde Drexler dans l'équipe, qui joue plus ou moins sur le même poste que Michael Jordan. Moi, vraiment, c'est un what-if énorme. Un, parce que bah t'as pas pris Michael Jordan, donc bah genre j'aime bien les Wolves qui ont pas pris Curry, mais là ils ont pas pris Michael fucking Jordan quand même. Et ça se voyait, hein, qu'on me fasse pas le coup de non, ça se voyait à North Carolina, le mec est déjà champion olympique, enfin non, t'es d'accord, non il est pas déjà champion olympique, j'ai des conneries, il va être champion olympique
plus tard, mais bon,
mais ça se voyait que le garçon était fort. Donc c'est une immense erreur, et alors les conséquences sont phénoménales. Les Blazers sont un titre en 77. Bill Walton, ils ont un titre, hein. Mais
non, mais le logo des Bulls est connu dans le monde entier.
S'ils avaient drafté Michael Jordan, ils auraient Michael Jordan. Tu sais quoi, Clyde Drexler, il aurait joué 3, pas de problème. Ouais, ouais. Ou il aurait été tradé, hein, je m'en bats les noix, parce que ça aurait été vite torché l'affaire.
Toute la planète entière, Matt Darren connaît le logo des Chicago Bulls.
Michael Jordan.
Genre les Bulls
n'ont pas drafté Michael Jordan. Alors, le what if est immense pour les Blazers,
oui.
Parce que bah, il y a fort à parier que Michael Jordan, il aurait été fort comme il a été fort aux Bulls, parce qu'au début, en plus, aux Bulls, il n'est pas aussi bien entouré que là, il aurait été entouré. Il aurait été pas trop mal entouré d'entrée. Hein. Et les Blazers, je rappelle, hein, ça va en finale en 90. Bon, ils se font fumer par les Pistons. Ils vont en finale en 92. C'est une bonne équipe. Hein. Ouais. Elle est bien construite et tout. C'est Michael Jordan au milieu de ça, mais non, laisse tomber. Hein, c'est n'importe quoi. C'est très, très chaud. Et puis alors, pour Michael Jordan...
Non, il aurait fait carrière.
Comment ?
Il aurait fait carrière. Mais il se serait blessé parce que c'est Portland.
En fait, exactement. Le cimetière indien des Blazers sur Michael Jordan, attention,
le pied,
ça se trouve le mec il revient pas de son pied, hein, en 86. Non mais je rigole pas, hein.
Non mais je suis d'accord.
Genre c'est chaud, hein, ce qui se passe, hein. Sam Bowie et tout, on aurait pu mettre les Blazers, c'est pas moins, c'est pas le 1 de Bastien du coup vu que c'est ça, mais les Blazers n'ont pas pris KD non plus en 2007, hein. Ils ont pris Greg Oden, on sait ce qui est arrivé à Greg Oden, hein, attention.
Tout à fait, moi j'ai mis Jordan Blazers en 1, mais alors du coup qui t'a mis en 1?
Ah, en 1 j'ai mis, j'étais à la bataille, j'en avais deux très gros, bah moi... Mon plus gros what if, il s'explique en deux mots.
Ah!
Ah bah ouais!
Ah ok, je l'avais
on
pas
appris. Oublie tout le temps.
Ah ok, je crois que t'allais mettre le coin flip
James,
de
Karim Abdul-Jabbar. Cleveland.
Oh, on a oublié Karim Abdul-Jabbar, tiens. Le coin flip, il est drôle.
Bah, c'est un coin flip quoi.
Ouais, bah t'aurais peut-être Karim Abdul-Jabbar au sens.
Oui, bien sûr, mais c'est un coin flip, je sais pas où.
Enfin, ah, The Decision, ouais, c'est marrant.
Attends, les conséquences elles sont complètement dingues, hein, de The Decision. C'est complètement dingue. Déjà, bah, la carrière de LeBron James, un des plus grands joueurs de tous les temps. Je viens de mettre Jordan avant, si vous mettez la draft de Jordan par les Blazers 101. Et que, si vous n'avez pas The Decision comme Bastien, honnêtement, j'ai un peu de mal. Je suis surpris que tu ne l'aies pas.
Parce que là, c'est une décision de free agency que j'aurais pu en mettre plein.
LeBron, il n'aurait pas de titre. Hein.
Oui, mais à ce moment-là, mais je t'avoue que les what-ifs, souvent, là, avec la free agency, les choix comme ça, je me dis, bon, bah,
oui, mais
KD
là,
a choisi d'aller au Warriors.
Oui, mais attends, là, c'est The Decision. Mmh. Son image n'est pas la même.
Ah, bien sûr.
Dwayne Wade, bah, Spoelstra, Bosch, tu parlais de Bosch tout à l'heure. Tiens, les Spurs, tu sais que je veux bien voir. Ils jouent qui en finale et comment ça se passe pour les Spurs à 2012, 2013, tout ça. Non, honnêtement, si à l'été 2010, LeBron James ne prend pas cette décision, qui dit, bah non, c'est ma ville, c'est moi. Il aurait pu, franchement. C'est non, construisez-moi un truc mieux, là. Dégagez tout moi, toutes ces merdes, et draftez-moi des mecs mieux, ou allez me trader, je sais pas quoi. Enfin, en gros, foutre la pression à son management plutôt de dire, eh, vous m'avez saoulé, je me casse. C'est un what if de malade.
Ah, oui, non,
ça se trouve, LeBron, ça aurait été la moins bonne décision de toute sa vie. Parce que là, mine de rien, on lui reproche. Elle est plutôt bonne, la décision. Oui. Et puis derrière, il fait un comeback qui, du coup, donne un côté romantique, aventurieux, complètement dingue à sa carrière, et qui en plus lui amène ce qui est arguably la plus grande bague de tous les temps. Arguably, hein,
les conséquences de cette décision sont énormes.
Oh là là !
Je dois avouer que j'avais pas mis les signatures de free agency, je les avais pas mis trop dans les.
Ah, j'en ai mis une, t'as vu, hein ? J'en ai pas mis 50, hein ? J'en ai mis une, j'ai pas pris n'importe laquelle.
Ah, bien sûr.
J'en ai mis une parce qu'elle est. Elle est symptomatique. Enfin, symptomatique, c'est pas le bon mot. Elle est vraiment. Elle montre vraiment beaucoup de choses de l'envers du décor de ce qui va se passer derrière d'un point de vue business pour les joueurs. Et le superstar empowerment, pour moi, il commence ici.
Conséquences sont
avant, ça existait déjà, mais là, il commence vraiment. Ici, The Decision. Ensuite, bah, ça se trouve, LeBron, ça aurait été une décision de merde. Après, ça se trouve, il aurait réussi à finalement en prendre une avec les Cavs, mais si ça se trouve, il n'en aurait eu qu'une. Là, il y va, il fait 4 finales de suite avec le Heat, il en gagne 2. Bon, avec les déboires et les réussites qu'on connaît. Ensuite, il revient à Cleveland. Dans son prime, il va envoyer des saisons monumentales avec les Cavs qui, entre-temps, ont drafté Kyrie. Et puis, hop, ça gratte un petit Kevin Love et tout. Attends, c'est pas rien. Non. Si les Browns, ils se cassent pas, les Cavs, ils peuvent pas drafter Kyrie. Enfin, a priori, ils draftent pas Kyrie parce qu'ils font une bonne saison. T'as les Browns en 2010, t'es pas pick 1 de draft, a priori, tu vois.
Non.
A priori. Donc, non, t'es d'accord. Oui. Il était trop fort à cette époque. Il était complètement monstrueux et tout. Donc,
il y a... C'est marrant, je ne le mets pas dans la catégorie relative, mais je vois
pour
ce que
moi,
tu veux dire.
En fait, déjà, la carrière de l'un des plus grands joueurs de tous les temps est complètement modifiée. Pour moi, il y a deux franchises qui n'ont pas du tout la même histoire. Oh, oui, le Heat et les Cavs, c'est pas rien. Pour le Heat, à voir ce que ça peut donner, mais quand même, Spoelstra, Wade et tout, c'est pas la même. Hein. Spoelstra, ça se trouve... Non, non. Hey, ça se trouve, Spoelstra, c'est pas un coach bagué.
Non, mais pour plein de gars. Hein.
T'imagines? Ouais. On serait là en train de dire, ah, c'est con, il y a... tu vois, genre, hein, c'est con, il y a des équipes mid. C'est un bon coach, hein, mais il a que des équipes mid. Donc, et LeBron, ça se trouve, il a pas de bague. Donc, ouais, moi je l'ai mis en 1. Voilà, c'est ma free agency, ma signature de free agency qui, à mon sens, est un what if immense.
Ok.
Après, j'étais à la bataille hein, entre les Kings, Jordan et The Decision.
J'avoue, c'est Jordan.
Mon podium était à la bataille. Et je comprends.
Et ben, on va montrer tout de suite.
Le gros tableau.
Le gros tableau, et donc le voici, le top 10 all-time des plus grands what if. Qu'est-ce que vous avez mis sur votre podium? Est-ce qu'il y a certains qu'on a oubliés ou que vous vous ressentez un peu plus précieux dans vos mémoires et souvenirs de fans de NBA? Dites-nous, vous, évidemment, ce que vous pensez de tout ça. Les derniers réflexes, nous, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une excellente semaine. Balancez en commentaire, hein, bien évidemment, vos suggestions de sujets pour lundi prochain, puisqu'on sera en top 10 actuel. On vous fait des très gros bisous.
Bisous tout le monde.
À la prochaine.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.